Buonasera.
Ma che meraviglia questo vostro modo di rompermi così dentro la mia vita normale. Siamo in diretta, vai Grillo, vai.
Sì, vai Grillo, dai che dobbiamo.
Sono felicissimo di farmi sentire a Bruxelles.
Bruxelles, senti.
Bruxelles, l'ho scoperto se che non c'era la X, ci ho messo 10 anni per capirlo che non c'era la X. E sono, comunque sono veramente felice di venire lì e farvi un po' di casino, nel senso di portarvi anche un aiuto, perché una volta io cercavo aiuto all'estero, in Germania, scrivevo lettere, invadeteci, non ce la facciamo più. Invece adesso sta succedendo il contrario. Io verrò lì e farò uno spettacolo che si chiama Incredible Italy e verrò lì come un messia, come un antidoto, un antivirus, perché vi state attenti, perché il nostro modo di fare politica, il nostro modo di fare economia vi sta colonizzando senza che voi ve ne rendiate conto.
Perfetto.
Quindi, potete farmi anche delle domande, voglio dire, io vado avanti. Quindi il discorso che voglio fare io è che noi non ci dovete sottovalutare. Noi siamo un paese che non è fallito, ma è fallito, non è mafioso, ma è mafioso, è tutto il contrario di tutto, siamo proiettati nel passato e mai nel presente. Non sarà neanche uno spettacolo di satira per descrivere l'Incredible Italy, sarà uno spettacolo di iperrealismo. Siamo passati dalla come posso dirti, neodemocrazia alla post-democrazia. Abbiamo il ministro della cultura che scrive lettere d'amore al premier, a colui che ama, al nano che ama. Quindi abbiamo un ministro delle pari opportunità che ha dei calendari con uno dei più bei culi d'Europa esposto sui finestrini dei camion. Come si fa a spiegare a voi brussellesi che cos'è? Ma state attenti, perché tra un po' l'Europa sarà così. Ci ritroveremo a reti unificate e non ce ne renderemo conto.
Ce l'abbiamo già.
State molto attenti, perché il nostro sistema, il putaniere, cioè la strategia del putaniere, e funziona da bestie. Io mi immagino da un momento all'altro che la Merkel corrompa un giudice, oppure vada con un ragazzino palestrato, oppure Sarkozy che va a trans.
Senti, abbiamo una domanda.
O Brown che porta a casa e cena con dei mafiosi. Guardate che noi siamo letali in quel senso lì. Mussolini ha creato Hitler. Noi abbiamo inventato il fascismo e ci prendevano per il culo. Abbiamo inventato le banche e ci prendevano per il culo, le banche che hanno a loro volta reinventato il capitalismo di rapina. Quindi noi siamo il vero virus. Io sono un messia mandato da Dio.
Da chi?
Arriverò lì con degli occhiali e vi dirò come fare. È questo la sintesi.
Ti facciamo una domanda.
Che già succedendo.
Ti facciamo una domanda. Possiamo?
No, non sento io bene.
Possiamo farti una domanda?
Sì, certo, scusate io parlo perché mi sento poco e lontano.
Ecco, buonasera, sono David Giannoni. Vivo da 22 anni a Bruxelles e sono nato all'estero, io in Francia, ho vissuto poco in Italia, ma ci vado sempre.
Sì.
Questo spettacolo, tu l'hai concepito proprio per l'estero?
Sì, una prima parte sarà dedicata a tutto ciò che sarà visibile da parte mia nella città in cui mi trovo, Bruxelles o Londra o Parigi. Quindi vedremo del vostro rapporto, del vostro debito pubblico, che è uno dei più alti del mondo dopo il nostro. Parleremo dei fiamminghi, della vostra lingua, di come siete messi anche voi come problemi. Quindi una prima parte sarà su questo, la seconda parte sarà come spiegarvi quello che sta succedendo in questo momento in Italia, che è straordinario. Perché guardate che questo sistema Italia sta facendo già delle cose. Guardate che Gheddafi e Putin erano morti, si sono rivitalizzati in Italia. Putin insieme a, come si chiamava, Topolanek, topolane. Se lo ricordate, topolane erano gente inesistente. Guardate che Sarkozy è quello che voleva mettere a capo dell'amministrazione pubblica suo figlio. Sono cose che abbiamo inventato noi. E per arrivare al premier irlandese, la cui moglie è sessantenne, va con un pivelletto di 25, gli dà anche i soldi del marito, il marito premier è costretto a dimettersi. Facciamo scuola. Quindi in Germania ci guardano come i mafiosi, i mafiosetti, l'unghia, la minchia, la controminchia. Ma la 'ndrangheta si sta comprando la Germania in franchising, neanche con l'unghia lunga al dito e la violenza, in franchising, investendo negli immobiliari, riciclando il denaro negli immobili, nelle opere pubbliche, comprando pizzerie, alberghi, entrando nella politica. Noi siamo i grandi professionisti del bordello mondiale.
Dunque,
questo è il senso dello spettacolo.
Ecco, un sistema di politica comunicazione che si sta divulgando un po' dappertutto.
Beh, io ho la mia divulgazione, non so se mi sentite bene.
Sì,
benissimo.
Io
di no.
Ecco,
la mia divulgazione è quella, fortunatamente, essendo stato espulso dai mezzi di comunicazione tradizionali, sia dai giornali che dalle televisioni, dopo i due V-Day che abbiamo fatto, è la rete. La rete è una tecnologia che, se la usi bene, è devastante, è l'intelligenza collettiva. Io sto facendo le liste civiche dal basso, potete farle anche voi, questa è una difesa. I cittadini con l'elmetto informatico entrano nei consigli comunali, nei consigli provinciali, regionali, quindi, e quando entra uno di questi cittadini con l'elmetto delle liste civiche che io sto organizzando a 5 Stelle con un programma straordinario, non entra un cittadino, entra un network. Quindi non sono abituati a essere filmati da una webcam nei consigli dove fanno la politica di basso costo, di basso profilo. Se li filmi e li porti fuori, crei la trasparenza tra quello che succede nei comuni, nelle regioni e in Parlamento. Sono rovinati, non hanno l'abitudine di parlare con un network, perché hanno 70 anni, 80 anni.
Tu pensi...
Siamo i più vecchi del mondo. Qui non c'è una guerra di classe, qui c'è una guerra di generazioni. Abbiamo presidenti di 74 anni, presidente della Repubblica di 82, fanno 300 anni in tre le cariche dello Stato. Dove andiamo? Abbiamo delle grandi problemi alla prostata, quindi se avete degli specialisti fatemelo sapere.
Et alors, si vous avez la patience d'encore écouter un peu d'italien avec Beppe, on va vous interviewer après. Non, aspetta Beppe, che stavo...
Si vous voulez, je parle en français, hein?
Ah, parfait.
Voilà.
Oui?
Attends un second.
Merci bien.
aspetta un secondo. Sì. Stavo parlando con l'altro ospite perché nel frattempo lo volevamo presentare. Quindi, aspetta.
Va bene come cosa?
Sì, perché è un ospite, pensa, un architetto che ha pensato a una vegetal city, quindi a una città vegetale, con sistemi anche di trasporto, che so che tu sei sempre molto così combattivo sui trasporti, i camion, i treni.
Sì.
Lui ha inventato un modo di vivere completamente nuovo, è qualcosa di molto futurista, nel senso,
no,
ti manderemo
il suo... È quello che mi parlava questo Davide?
No, si chiama Luc Scheuten. Luc, tu veux dire quelque chose, Luc, à Beppe? Beppe, c'est quelqu'un qui est très connu en Italie.
Oui.
C'est aspetta, je suis en train de présenter ta vie personnelle à Monsieur Luc, comme ça il peut intervenir pendant l'interview. Je disais, Luc, Monsieur Beppe Grill, quelqu'un qui, un peu comme toi, mais d'une façon un peu plus, peut-être agressif et différent, il a conçu un style de vie politique tout à fait différent.
Oui.
Et il est en train de se battre afin que ce système puisse effectivement aboutir à quelque chose de concret. Et toi, effectivement, Luc, tu as fait la même chose avec ton livre. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Luc?
Alors...
Attends, aspetta, Beppe, che ho dato la parola a Luc.
Oui. Sì, lui cosa sta progettando?
Una città vegetale.
Un sistema completamente nuovo per i trasporti digitali?
Sì, ma non soltanto, no, per i trasporti nella città, ed è una città vegetale, cioè una città con delle case, ma con gli alberi che sono attaccati alle case, vivono sulla
fantastico,
casa.
Fantastico,
aspetta che aspetta che gli chiediamo qualcosa, così poi puoi intervenire. Voilà, Luc, sì. A toi la parole.
Oui, voilà, j'ai donc commencé il y a quelques années à imaginer le monde dans lequel j'aimerais bien vivre. N'étant pas tout à fait satisfait de ce qu'on nous proposait, j'avais vraiment très tôt eu conscience que la société allait vers une sorte de catastrophe, mm-hmm. que nous étions occupés à consommer, à utiliser des énergies que nous n'avions pas réellement, et que nous mettions en cause complètement la survie de la planète en travaillant en utilisant nos ressources, notre capital comme élément de consommation. Mm-hmm. Dès le moment où on a consommé tout son capital, eh bien on se retrouve avec plus rien. Mm-hmm. C'est ce qui s'est passé dans différents endroits dans le monde, comme par exemple sur l'île de Pâques, où après avoir coupé toute leur forêt, avoir détruit leur environnement, ils se sont retrouvés dans un monde dans lequel ils ne pouvaient plus vivre, et la société a disparu.
Ok, Beppe, cerco di tradurre per te, così ti lascio la parola, perché poi non abbiamo... Allora, lui ha detto che effettivamente ci sono delle popolazioni che si sono trovate a un certo punto in un ambiente del tutto estraneo, perché hanno cominciato a tagliare alberi, hanno cominciato a costruire strade,
certo.
E quindi le persone non si sono più riconosciute in questo ambiente, e quindi hanno cominciato ad avere malattie, sono morti, si sono comunque, diciamo, è la fine di una civiltà.
Dove?
Ma
cosa
hai detto dove?
L'isola di Pasqua.
L'isola di Pasqua, che è un posto, vabbè, molto...
Ah, beh, certo.
Quindi...
Basta leggere Collasso.
Sì.
Se si legge il libro Collasso di Daimon.
Sì.
Posso parlare?
Sì, stai parlando, infatti, vai.
C'è un esempio sull'isola di Pasqua di Daimon, sul libro che si chiama Collasso.
Sì.
Credo che sia la Bibbia di Sarkozy.
Ah, perfetto. Allora
dove l'ambiente si è spopolato grazie all'assurdamento totale delle risorse, ma quello è un po' che ci sta succedendo, quindi sono pienamente d'accordo con questa persona che ha parlato, anche se non ho sentito tutto quello che ha detto, di reinventarsi una vita, reinventarsi la città, reinventarsi il tempo, il muoversi.
Mm-hmm. E ti offriremo...
Oggi abbiamo le città a misura di automobile, è finita l'automobile, è finito il movimento del futuro, il muoversi, la mobilità del futuro, è muoversi il meno possibile, cioè muovere le cose, oggi col device puoi muovere oggetti di tua proprietà attraverso il tuo iPhone, poi oggi la realtà è già oggi così, la realtà è allargata, puoi avere una interfaccia in tasca che è un iPhone, chiamalo come vuoi, e collegarti con l'intelligenza del mondo, quindi è tutto da ricreare. Io quando sento persone come il signore che ha parlato, mi si apre il cuore, sono felice che ci siano persone che cominciano a ripensare la vita e ripensare anche alle parole, cosa sono diventate, il furto delle parole, il furto del significato delle parole.
Senti,
che non vogliono più dire niente, oggi la rivoluzione verde è una presa per il culo, se non cambi il sistema del PIL, del produrre, della crescita. Tutti usano le stesse parole, buone, verdi, il sostenibile, sono parole, sono reati, non sono parole. Ormai ci si sono buttati dentro quelli che hanno devastato il mondo, e se non cambiamo generazione, se non cambiamo il pensiero, le parole, non reinventiamo le parole, non andiamo da nessuna parte mantenendo questo sistema.
Senti,
è quello che io voglio far capire.
Infatti.
Io ho fondato dei movimenti, questo movimento 5 Stelle, che è un movimento online, che andate a vedere sul mio blog, è un movimento, 5 Stelle vuol dire l'acqua, ripensare l'acqua, la cultura dell'acqua, ripensare l'acqua pubblica. A Parigi l'hanno fatto, se la sono ripubblicizzata e hanno mandato a fare in culo la Vivendi, la società che gestiva l'acqua multinazionale, quindi ripubblicizzare l'acqua come nelle case, il rispetto dell'acqua, la cultura, insomma ci manca da tutte le parti, almeno nel nostro paese. Secondo, le energie rinnovabili, il mondo, io voglio vedere pannelli, voglio vedere eolico, voglio vedere pompe di calore, voglio vedere case che si autosostengono energeticamente, non voglio gas, non voglio l'elettrificazione, l'elettrificazione è fatta con l'eolico o fatto con sistemi compatibili in questo senso. Voglio un mondo così per mio figlio. Io ormai ho 62 anni, ho visto tutto e adesso sono andato in giro per il mondo a vedermi le cose che funzionano e voglio copiare le cose straordinarie, voglio mettere nei posti giusti le persone che sono state espulse da questo sistema marcio, perché oggi in Italia perlomeno chi è ricattabile fa carriera, chi non è ricattabile non ha assolutamente nessuna possibilità. Io voglio mettere gente di 30 anni, 40 anni massimo nei posti giusti, a capo di banche, a capo di nel Parlamento, dove capiscono, perché è una cultura diversa quella di un ragazzo di 30 anni da uno di 70. Mm-hmm. Voglio dire, è immaginare il mondo. Mio figlio che ha 15 anni chatta con la ragazza col telefonino mentre gioca con la PlayStation con un suo amico della California. Le sinapsi, quando noi abbiamo l'intelligenza collettiva, è il più grande cambiamento epocale del mondo e ci siamo in mezzo. Allora, la massa non ha più bisogno di un leader, la massa non è stupida, la massa diventa intelligente. E quindi si creano i social network, non hai più bisogno di intermediari, di giornali, di televisione, di giornalisti, non hai più bisogno del politico, perché sei tu che cliccando voti e uno vale uno, che è la democrazia dal basso. Questi concetti voglio sentire oggi nella politica della mia nazione perlomeno, e voglio vedere se voi siete disponibili ad accettarle queste cose, perché sono universali. Ci sono 500.000 movimenti oggi in questo momento senza leader. Mm-hmm. Che si aggregano su degli obiettivi, che si distruggono, si disaggregano, si riaggregano. È tutto un divenire di comitati, di associazioni, di movimenti. È bellissimo questo momento, da rifare le cose, gli oggetti, da dire efficienza energetica di una roba, il fattore 10 di Wuppert. Io vi potrei elencare 40.000 cose meravigliose che si possono fare domani mattina. Ma abbiamo bisogno di cambiare generazioni, perlomeno in Italia, della nostra politica. Non ci arrivano a 70-80 anni. Un settantenne progetta un futuro che lui non vedrà mai. Io voglio che il futuro lo progetti uno di 30.
Mm-hmm. Ok, bene, direi che ha terminato. Allora, ti lascio Davide con Luc, se vuoi cominciare magari a parlare di trasporti, di eolica e di questo concetto, così vado a chiamare Beppe e lo saluto perché è caduta la linea. Ti lascio, ok. Luc, alors je te laisse avec David et tu peux déjà peut-être introduire ton livre en français, s'il te plaît. Oui. Et j'ai vu aussi, j'ai déjà dit que tu as mis comme date de ta mort, effectivement, tu as choisi le 2097. Ça veut dire que tu envisages de vivre longtemps.
Non, ce n'est pas ma date de mort. C'est... Donc, c'était simplement la fin de l'expérience de l'archivorescence. En fait, c'est une sorte de biographie anticipative que j'ai faite pour une exposition qui a eu lieu à Bruxelles au Musée du Cinquantenaire. Comme toute l'exposition et toute ma vision étaient futuristes, et j'ai eu envie de faire un petit clin d'œil et de ne pas arrêter ma biographie au temps présent et de la continuer dans un futur. Mais j'avais imaginé mourir dans un accident d'ornithoplane à ailes battantes en 2035. L'ornithoplane à ailes battantes étant le futur moyen de déplacement aérien qui serait bien plus respectueux de l'environnement, puisque nous savons maintenant, nous avons des réserves de pétrole pour quelques dizaines d'années encore, et puis après, eh bien, il faudra fonctionner un peu plus intelligemment. Maintenant qu'on aura en 200 ans consommé tout ce que la planète a mis des millions d'années à constituer, il faudra commencer à réfléchir à être un peu plus conforme à ce que la Terre nous offre. Mais puisqu'on n'aura plus d'essence, on n'aura plus de pétrole, il faudra fonctionner autrement. Or, le moteur qui avance un avion avec une hélice ou un moteur à réaction, mais il n'a jamais été produit dans aucun environnement naturel par la nature, parce qu'il consomme beaucoup trop d'énergie par rapport au mouvement qu'il peut enclencher. Si on voit voler un oiseau, on voit un goéland, une mouette le long de la mer, on voit qu'il se déplace avec très 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 peu de force et relativement vite. Parce qu'il a trouvé un moyen bien plus intelligent que l'hélice ou le moteur à réaction, simplement le battement d'ailes. Mais on n'a pas cette intelligence, on a fait simplement ce qui était le plus rapide, le plus efficace, et on n'a pas tellement réfléchi. On pourrait très bien réaliser des engins volants assez grands qui pourraient permettre de mettre des dizaines de personnes à l'intérieur, pour autant qu'on commence à réfléchir autrement. Et c'est ce que je propose, une des...
Réfléchir autrement,
oui. Oui, absolument. Donc être plus léger, plus économe en énergie, plus souple, plus amusant, beaucoup plus créatif, dans une toute autre type de réflexion. L'ornithoplane à ailes battantes vole donc par battement d'ailes, mais c'est avant tout une structure qui est gonflée à l'hélium. Donc c'est une sorte de grand dirigeable, mais qui peut beaucoup mieux résister à l'air que au vent et aux intempéries que les dirigeables qui ont été faits précédemment, par sa forme biomimétique. Et puis tout l'extra d'eau est couvert de capteurs solaires qui lui permet d'emmagasiner cette énergie pour la retransmettre dans les moteurs qui actionnent les battements d'ailes. Des moments où on se déplace avec un engin pareil, on se déplace à la vitesse à laquelle les animaux se déplacent dans leur environnement, dans la nature. On vole à 120 km/h par exemple, ce serait un ordre de grandeur qui serait bien plus raisonnable, qui nous permettrait en même temps de mieux voir le paysage, d'être plus sûr, etc. Voler dans un engin pareil, c'est voler dans une espèce d'énorme airbag. Dès le moment où on en cogne un autre engin, mais c'est comme deux coussins qui se touchent, ça ne fait pas grand dégât. S'il y a une fuite ou quelque chose comme ça, eh bien, comme c'est compartimenté, ça se pose doucement, etc. On est dans une toute autre logique, on n'est plus dans ce côté compétitif, etc., dans l'agressivité des moyens de transport que l'on utilise. Nos voitures, c'est la même chose. Voilà. Nos voitures pèsent 1,5 tonne pour transporter 150 kilos de passagers en moyenne. Donc, 1/10 du poids de l'ensemble est pour ce qui est utile. C'est aberrant. Si on sait qu'un moteur à essence a un rendement inférieur à 10%, on tombe à un rendement de 1%. Et pour 1%, on pollue la planète, etc. On emploie toutes nos énergies à des choses aussi stupides. On peut se déplacer autrement. Et moi, je roule avec une voiture électrique, avec une assistance avec pédale. Mm-hmm. Ça me coûte en énergie entre 30 et 40 euros par an. Mm-hmm. Parce que c'est très peu. Et ça consomme peu d'énergie. Donc, je suis en meilleure adéquation avec mon environnement, surtout si l'électricité est faite par des capteurs solaires comme ça.
On parlait tout à l'heure avec Beppe Grillo des nouveaux réseaux, donc je pense que c'est via un réseau social bien connu et fréquenté par un peu tout le monde aujourd'hui que j'ai découvert un reportage de la télévision sur cette voiture, dans ce véhicule qui est passé il n'y a pas longtemps.
Effectivement.
Et c'était vraiment, et vous parliez à ce moment-là aussi de la transformation de ce que j'appellerais la carrosserie par défaut, qu'à terme, vous vouliez aussi travailler sur le matériau utilisé pour l'extérieur, en fait.
Absolument.
Là, si je me souviens bien.
Je pense qu'il faut apprendre à voir les gestes qui sont durables, c'est-à-dire qu'il en peut perpétuer dans le temps sans appauvrir le système dans lequel on est. Tout ce qui se passe dans la nature est durable. Ce qui n'a pas été durable a été éliminé directement. Les déchets doivent être récupérés, etc., pour pouvoir mettre en place des systèmes qui nous permettent d'être enfin en complète harmonie avec notre environnement. La nouvelle voiture que je suis occupé à concevoir est cyclopolitain. Donc une voiture pour 3 personnes, qui est le pilote devant pédale avec une assistance électrique, il y a 2 personnes qui peuvent se mettre à l'arrière. La coque est faite avec une résine à base d'huile de lin, elle est 100% bio, on peut la prendre, on peut la manger, elle est comestible. Une fois qu'elle a durci, elle ne bouge plus, elle est complètement stable, et l'ensemble de la structure qui la rigidifie s'en fait avec des fibres en bois pour pouvoir avoir l'ensemble des composantes de la coque qui est entièrement bio. Il y a un mécanisme qui, lui, est produit par l'industrie, parce qu'on ne peut pas s'affranchir encore d'un coup complètement de cela. Mais plus on prendra une distance vis-à-vis de ça, mieux on se portera. Et en tout cas, en trouvant une partie des alternatives à ce qu'on nous propose.
On peut acheter cette voiture.
C'était un prototype que je suis occupé à travailler, mais celle sur laquelle je roule, une Touareg, elle est disponible. Si vous voulez avoir des renseignements, vous regardez sur internet Touareg, TWIKE.DE. Ça coûte fort cher parce que on en fait très peu et c'est pas un très grand bien de consommation, mais pour 20 000 euros, on peut en avoir une. Ce qui veut dire que au bout de 4 ans, avec la consommation qu'elle a, elle revient au même prix qu'une petite voiture tout à fait classique. On place son argent autrement que dans un plein d'essence, on le place directement dans l'acquisition de la voiture.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà acheté ces véhicules?
Ah oui, en Belgique, il y en a très peu, pas une dizaine, mais on en trouve un peu plus en Hollande, en Allemagne ou en Suisse.
Et d'après vous, autant pour les véhicules ou les maisons, je pense que le véhicule est peut-être parfois... Enfin, la maison aussi est très parlante, parce qu'on habite tous dans une maison, évidemment. Mais surtout, ce qui interpelle souvent des gens dans une ville comme Bruxelles ou dans toute ville, c'est la question du transport et du véhicule.
Et
parce qu'on se déplace souvent quand on a du travail, parce que Bruxelles n'est pas une ville où on a beaucoup de travail. Mais voilà, c'est quelque chose qui est peut-être plus parlant dans le quotidien des gens. Comment est-ce que vous imaginez, par la sensibilisation du et des politiques et des forces économiques qui sont à côté de nous, pour ne pas dire qui nous régissent, comment imaginez-vous de réellement réussir ce changement dans le concret?
Je pense que l'idée lancée par Nicolas Hulot dans Grenelle de l'environnement en France, la taxe carbone, d'un côté taxer les plus polluants, les voitures, les engins, les déplacements qui sont le moins en accord avec les grands principes de la planète, et utiliser cet argent pour aider ceux qui font l'effort de se déplacer et de vivre dans des systèmes qui sont énergétiquement beaucoup plus durables, c'est une question d'équilibre qui est tout à fait naturelle, puisque il y a certains qui aident à ce que les changements climatiques ne soient pas une catastrophe pour toute une grande partie de la planète, et d'autres qui, au contraire, vont contribuer à accélérer un mouvement qui va vous faire très très mal. Ce ne serait que juste d'arriver à motiver les gens par cet apport financier qui est quand même un moteur important. Malheureusement, par simplement conviction personnelle, peu de gens vont à l'encontre de leur porte-monnaie, simplement. Donc ce serait une manière d'un geste fort.
Est-ce que vous pensez qu'il est imaginable ou rêvable qu'un jour, peut-être pas loin de Bruxelles, existe une petite ville, exemple, peut-être dans la création d'utopie ou de ville utopique, mais est-ce que vous pensez que par l'exemple positif, donc la création de A à Z, d'une ville qui fonctionnerait selon différents systèmes, cela ne serait peut-être pas plus simple
Pour moi, une utopie, c'est impossible, qui n'a pas encore été expérimenté. Une ville qui est fortement autonome, qui utilise ce genre de principe, mais il y en existe. Fribourg est un exemple extraordinaire.
En Autriche, grâce aussi.
Bien sûr, en Autriche, ils sont très motivés de ce côté-là. Mais à Fribourg, dans le quartier Vauban, il y a une vraie politique générale de gens qui ont passé une sorte de contrat pour être dans ce quartier, un contrat écologique qui leur font que tout le monde adhère à des mêmes principes de partage, de solidarité, etc. C'est tout à fait étonnant, c'est extraordinaire. Il y a un calme dans cette ville, extraordinaire. Les gosses se promènent au milieu de la rue sans que personne ne doive s'inquiéter, parce qu'il n'y a pas de voiture. Quand il y a une voiture qui passe très 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 lentement, ce sont des gens qui doivent faire absolument un déplacement ou par des handicapés, des choses comme ça. Mais c'est une toute autre attitude. Le partage est différent. Les espaces collectifs sont traités autrement. C'est une ville très très silencieuse, dans laquelle l'agressivité, la pression est bien moindre que dans la plupart de nos cités. Et les gens qui vivent là-dedans disent qu'ils auraient vraiment beaucoup beaucoup de difficultés à vivre dans une ville autre qui n'a pas cette éthique, cette volonté d'essayer de dépasser ce côté stressant, cette trépidation, en même temps le côté artificiel que peut avoir nos villes, cette espèce de course continuelle à la consommation, à produire et consommer de plus en plus. Alors qu'actuellement, dans la planète, on consomme une fois et demie ce que la planète peut produire. En 2050, on arrivera à deux fois. Est-ce qu'on peut continuer à imaginer que ça va augmenter comme ça indéfiniment? On vit sur notre capitale, donc ça a fatalement un laps de temps très court. Et il y a des gens qui ont mis en route des systèmes qui leur permettent d'échapper à ça. C'est en Angleterre les Transition Towns. Ce sont des gens qui ont très, très volontairement décidé de fonctionner dans des plus petites unités d'équilibre, avec toujours en production consommation locale, parce que faire venir des produits de consommation, des denrées alimentaires de l'autre côté de la planète, ça ne fonctionne pas. On peut arriver à le faire actuellement parce qu'on ne paye pas le prix que coûtent nos réserves. Et puis, quand on n'aura plus, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, là, on consomme et on produit localement. Et ils vont jusqu'à avoir une monnaie locale aussi qui leur permet de s'assurer que les choses qui vont échanger restent dans leur environnement. Ça permet de retrouver une identité et un lieu. Mais c'est pas nouveau du tout. Il y a 200 ans, tout se passait comme ça. On construisait avec les matériaux du pays. On n'allait pas chercher de l'autre côté de la planète. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Mais que dans chaque coin, les constructions, les maisons avaient une identité locale, avaient la personnalité du pays. Les pierres, etc., émanaient du sol qui se trouve à côté. Donc il y avait un lien direct entre le sol, le sous-sol, le climat, le mode de vie, etc. Et chaque région avait son entité, ses caractéristiques, sa force d'expression. Maintenant, tout ça s'est mêlé. On arrive à une architecture internationale qui est une sorte de réduction à un même commun dénominateur, un nivellement par le bas. C'est aussi grave que la perte de la biodiversité dans la nature, où on se retrouve avec les mêmes stéréotypes partout, complètement banal. Ça sert à quoi de voyager, d'aller de l'autre côté du monde, si c'est pour voir les mêmes maisons, avec des gens habillés de la même façon, mangeant le même hamburger? C'est un appauvrissement considérable. Il faut retourner sur les vraies valeurs, celles qui appartiennent aux choses qui sont justes. Dans la nature, on ne va pas se nourrir de l'autre côté de la planète. Ça n'existe pas, parce que, énergétiquement parlant, ce n'est pas pensable. Et on a, nous, fait tout ce que l'erreur de croire que la planète avait des ressources en énergie illimité et que nous pouvions absolument tout faire. On va le payer cher, ça c'est évident. Et plus on s'en rendra compte à temps, plus on trouvera des alternatives à temps, moins ça fera mal quand on sera face à l'addition, parce qu'il y a un moment où on va se retrouver avec un bilan et on verra qu'on a vécu tout à fait au-dessus de nos moyens. Et qu'il faudra commencer à pêcher un peu autrement. Et je pense que ce monde-là n'est pas un monde beaucoup plus triste. Au contraire, vivre à un autre rythme et rouler dans des voitures comme ça ou voler avec des engins pareils, c'est gagner tout à fait autre chose. Gagner une souplesse, une légèreté, un amusement, un plaisir, etc. On n'est plus dans le stress, on est dans notre manière de communiquer avec les gens. De même, quand on sort de la société de consommation et des loisirs de consommation, tout ça, ben on peut travailler moins. Donc, on n'a plus de loisirs. On peut, à ce moment-là, commencer à avoir des rapports humains qui sont différents aussi. On échange des créations, etc. On est dans un monde beaucoup plus libre, plus inventif, où chacun prend une part plus active à chercher un mode d'expression qui lui est personnel, par ses vêtements, par son comportement, par son attitude, par sa manière dont il se déplace, avec des choses que chacun va inventer. On va retrouver un espace de vie bien plus inventif. Et là, on est dans une conformité très grande.
Je vous pose une question. J'ai lu dans le livre que vous travaillez avec Biomimicry.
Oui.
Et j'ai connu aussi un professeur, je ne me souviens plus de quelle nationalité. C'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous voulez peut-être dire juste deux mots sur à propos de ce sujet, expliquer un peu de quoi il s'agit et pourquoi Biomimicry?
Biomimicry est une association de scientifiques et autres, puisque j'en fais partie, moi je ne suis pas du tout scientifique, qui est constituée de beaucoup de biologistes qui ont découvert et qui ont redécouvert que le monde de la nature, de la biologie, c'est quand même 3,5 milliards d'années d'expérimentation et de recherche, et qu'ils ont inventorié tout ce qui pouvait se faire de plus intéressant et surtout qui peut se perpétuer dans le temps sans nuire à l'ensemble de ce qui se passe autour. C'est donc en regardant ce que la nature a fait que l'on peut commencer à voir ce qui a lieu de faire. On prend un tout bête exemple, c'est en observant une grenouille qui nage dans l'eau qu'on a imaginé de faire les palmes du plongeur. On s'est dit, mais si on agrandit les pieds, bon, on sera plus efficace. Et bien, on a fait les palmes du plongeur. C'est en observant le martin pêcheur qui plonge, qui va de l'air dans l'eau, que les ingénieurs qui ont fabriqué ce train japonais, le Shinkansen, ont pu gagner 15% en énergie et ont pu résoudre le problème de la rentrée à très grande vitesse dans un tunnel assez étroit qui comprimait l'air. Alors, en prenant la morphologie du bec du martin pêcheur, ils ont réussi à faire ce très très grand gain en énergie. Et ainsi de suite, il y a des centaines d'exemples que l'on pourrait prendre comme cela. On a là une matière à s'inspirer pour faire énormément de choses. Et je suis parti, moi, simplement de cette constatation-là. Je me suis dit, mais tiens, quand on construit avec du béton, du fer, de l'aluminium, etc., on va chercher les ressources sur la planète. On peut lire maintenant dans tous les magazines que nos ressources en produits miniers, etc., on en a pour encore 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans pour les plus grandes réserves, que ce soit le fer, l'aluminium, etc. Et puis qu'est-ce qu'on fait après? On va fouiller dans les poubelles des autres pour essayer de récupérer un peu de matériaux pour faire quelque chose. C'est pas très raisonnable. Quand on construit avec les matériaux vivants, c'est au contraire. Quand si j'utilise un arbre comme structure portante pour faire ma maison, d'abord elle ne me coûte rien en énergie. Je plante une graine, j'attends quelques dizaines d'années, et il y a une structure géante qui a poussé, qui s'est développée, qui est née, avec le soleil uniquement, l'eau de pluie et les déchets organiques des autres organismes vivants qui se trouvent aux alentours. C'est tout. Mais en plus de ça, quand l'arbre a poussé, il a capté le CO2 et il a commencé à réparer toutes les bêtises qu'on avait dans notre environnement. C'est donc quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi ne pas utiliser un arbre comme structure portante pour nos habitations? C'est techniquement tout à fait possible. Il faut adapter, il faut commencer à réfléchir autrement, il ne faut pas détruire l'arbre. Alors, si l'espace entre deux arbres, pour pouvoir leur fermer, pour faire un espace qui est climatisé, etc., qui est à l'abri de la pluie, eh bien, on peut tendre une sorte de biotextile, comme les cocons que font les insectes, ou utiliser un biobéton, comme ce que les coquillages font, ou un biovert, comme ce que les diatomées font. Tout ça existe dans la nature. C'est produit sans déchets, etc., sans toxines, sans rien, avec uniquement ce que l'insecte, le petit animal, va trouver dans son environnement naturel. Pourquoi n'aurions-nous pas autant de savoir-faire? Les termites font des très grandes habitations en terre qui sont autant climatisées. Pas un degré de différence entre l'été et l'hiver, le soir et le jour, alors que la température peut varier de 30 degrés à l'extérieur. Mais ça, c'est sans conditionnement d'air, sans chauffage, sans mazout et compagnie. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi bien qu'elle? Il faut commencer à se poser les bonnes questions, chercher et développer des systèmes que nous n'avons pas développés, parce qu'on est parti dans des idées complètement fausses. Donc moi, je ne suis pas capable de vous donner toutes les solutions, mais j'aime dessiner et j'aime montrer ce à quoi ça pourrait ressembler. Une ville dont les maisons seraient protégées par une sorte de peau, donc une nouvelle membrane, dont chaque maison pourrait avoir cette espèce d'interface entre l'intérieur et l'extérieur, qui est organique, qui a poussé, qui capte l'énergie solaire, qui est transparente, etc., et qui est due à une connaissance en biologie, etc., qui est plus élevée que ce que nous avons maintenant, qui nous a permis de simplement évoluer vers quelque chose d'organique. En même temps, on se retrouverait dans un environnement naturel qui a l'avantage de se régénérer par simplement le soleil, l'eau, etc. Peut pousser, on peut imaginer un environnement dans lequel on serait redevenu une partie intégrante du système dans lequel on s'est extrait à un certain moment. Nous sommes des organismes vivants et on vient d'une planète qui doit être considérée comme un vaste organisme vivant. L'ensemble des écosystèmes font que la planète Terre est un organisme vivant. La preuve qu'elle est vivante, c'est qu'elle peut mourir. Mais que si nous ne faisons pas attention, elle va bientôt s'éteindre. Elle va bientôt s'appauvrir à un point où elle ne pourra plus continuer à fonctionner. Comme on a pu voir dans certaines civilisations qui n'ont pas pu gérer leur capital, qui ont tout utilisé beaucoup trop vite et qui ont été amenés à disparaître.
Est-ce que vous pensez que c'est la nature qui est en danger ou bien les civilisations humaines?
Ah, c'est surtout l'humain qui est en danger. La planète Terre s'en tirera toujours. Si l'homme disparaît de la planète Terre, elle va se porter se porter très très bien. C'est nous le danger. Nous sommes notre propre danger, bien entendu.
De ce fait que la planète Terre serait en train de se défendre avec l'humain.
On a souvent évoqué ça et on s'est dit que c'était un peu une sale maladie que la planète avait attrapée et qu'on s'était développé nous comme des virus et qu'on avait mis en cause tous les équilibres. Mais alors à ce moment-là, il y a un moment où le virus s'auto détruit et puis après la planète Terre retrouve son équilibre. Mais ce serait peut-être très intéressant quand même de sauver notre civilisation et l'ensemble de nos concitoyens.
Luc, je voulais te remercier parce que maintenant on a re-appelé Beppe. Je lui ai raconté un peu ce que tu viens de dire. Voilà, Beppe, allora, che cosa vuoi rispondere a Luc in base a quello che ti ho detto?
Ma io non posso che condividere le parole di questo sant'uomo. Sono i precursori, ha parlato di Friburgo, io ho visto il villaggio, ho visto dei seri tentativi e funzionano. È un cambiamento epocale di buon senso. Il buon senso oggi è rivoluzionario. Oggi avere una casa allacciata, senza allacci, avere una rete energetica come internet, avere un software che gestisce tutte le tue utenze in base al costo dell'energia quel giorno lì, avere progetti, io ho visto progetti fatti con l'eolico danese di notte che veniva svenduto e dato alle 100.000 auto elettriche israeliane, le quali caricandosi di notte con l'eolico danese poi potevano andare di giorno, le auto che non andavano veniva l'energia reinserita in rete e rivenduta, quindi il concetto di un'automobile completamente diversa, il concetto di una casa diversa. Io perché devo sapere tutto di un'auto che è finita con mezzo di movimento e non devo sapere nulla della mia casa? Abbiamo case che hanno una tecnologia di 60 anni fa, i gabinetti che consumano acqua potabile per l'evacuazione, 70 litri in Italia, mentre il consumo medio di un algerino è 28 litri, noi 70 dei nostri 240 litri giornalieri di consumo d'acqua, 70 vanno nei gabinetti, quindi concezione di rifare case, di rifare habitat, di rifare condomini, città, gli orti condivisibili, la spesa a chilometri zero. I giovani vogliono queste cose, le vogliono.
Ok, Beppe, aspetta.
Io sono, Beppe. È il mio programma delle 5 stelle,
okay.
L'acqua pubblica, le rinnovabili, la raccolta differenziata, rifiuti zero, waste zero, vuol dire non fare più, costruire cose che poi portano a un rifiuto, perché è un errore nella costruzione di quella cosa. Il rifiuto non esiste, è una concezione nostra. Quindi il primo imballaggio, il secondo imballaggio, la dematerializzazione, cioè in sintesi, passare al segno meno è una cosa fantastica ed è una cosa rivoluzionaria, cioè meno energia, meno materia e meno lavoro.
Okay.
E in queste tre cose si raggruppa tutte le cose che dice l'architetto, e gli architetti saranno in prima linea, devono essere in prima linea, come questo santuomo che ha parlato.
Okay,
devono ripensare,
Beppe,
una città.
Beppe.
Cemento zero è un'altra nostra stella.
Cemento
zero significa che non si può più costruire calcestruzzo. Agli architetti deve essere proibito il calcestruzzo. Tutto ciò che si fa, si ricostruiscono le cose. Si restaurano le cose nei centri delle città, perché stiamo costruendo slums, periferie, con qualità della vita pessima. Quindi abbiamo solo che riprogettare il mondo, ed è bellissimo. Io ho 72 anni e mi ritrovo con mio figlio di 15 a parlare di quello che sarà il suo mondo fra 20 anni, ed è meraviglioso.
Avere un iPhone
dove vai in un supermercato e punti l'iPhone su un codice a barre e ti appare tutta l'informazione di quel prodotto, da dove arriva, quanti scarti ha fatto, se ha usato manodopera infantile, quanto costa, il prezzo minore dove lo posso comprare. Quando tu hai queste informazioni, questa realtà ingigantita, allargata, non ti fregano più. Allora ecco subentrare, perché dico la rete, perché quando il cittadino diventa informato, cioè che ha l'elmetto, non lo prendi più per il culo.
Senti, ti faccio una proposta. Ti faccio una proposta, perché Luc Schlüten, anche se non parla bene l'italiano, ha capito che tu sei a Genova e quindi mi ha detto che vuole venire a trovarti.
Ma sono felicissimo, allora, di vedere anche casa mia. Io da 20 anni mi producevo l'idrogeno.
E lo so, perché a Sant'Ilario.
Io producevo con i pannelli solari, con dei consulenti dell'Ansaldo.
Sì.
Noi abbiamo inventato tutto a Genova.
Allora, ascoltami, ti sto facendo un regalo. Sto facendo sul libro che io ho comprato alla casa editrice. Chiedo a Luc di mettere un autografo per te e poi ti faccio avere il libro quando vieni qua. Io me ne compro un altro.
Fantastico.
Però poi tu lo devi invitare a Genova.
Quando vieni a Genova, si ricordi che il genovese è come uno scozzese più un ebreo.
Eh sì, bisogna stare attenti, gli fai pagare anche le spese. Allora, je vais parler en français comme ça, Luc peut participer.
Oui, oui, alors. Je t'attends, architecte, je t'attends à Gênes.
Ok,
il vient tranquillement à ma maison et tu vois comment je vive. Je vive avec les panneaux solaires, je vive avec la pompe de calor, j'avais l'hydrogène, j'avais expérimenté tout. J'avais expérimenté tout. Che tu avevi dit, je l'avais expérimenté.
Okay.
Quindi je t'attends entusiasmant, je t'attends.
Okay.
Pour l'expensive, je t'attends.
D'accord, ok, alors il est en train d'écrire deux mots sur la première, deuxième page du livre pour toi.
Excusez-moi, mais je l'attends dans le spectacle.
Oui, oui, je vais
à
lui
Bruxelles,
dire.
Oui,
ouais, bien sûr, j'essaie de participer moi-même avec lui, comme ça je te le présente, et après c'est promis, il veut venir à Gênes et voir ta maison.
Oui.
Ok.
Oui, merci beaucoup pour ces... dans ces conversations, architecte. Je veux connaître l'architecte.
Oui, il est en train d'écrire. Ok, d'accord.
Ciao, senti, Beppe. Au revoir à tous les ascoltateurs.
Va bien.
À tout à l'heure, je t'aime, mais non plus.
Je t'aime, mais non plus, mais non te la prendere, ma non te la prendere troppo, non devi arrabbiarti.
3 febbraio ci vediamo tutti al Vurubilis.
No, le mie caratteristiche, l'anima, no. Ok?
Va bene.
Arrivederci. Ciao, grazie per l'intervista.
Grazie, ciao.
Merci beaucoup, merci.
Merci a toi, ciao.
Oui, merci à vous aussi pour l'invitation à venir vous rendre visite, c'est très gentil.
Non, tu as de la chance parce que Beppe a une très belle maison. Avant, il avait une très belle maison dans la colline, en Saint-Hilario. Après, il a déménagé dans le centre de Nervi. C'est vraiment à côté de la mer, sur la mer. C'est un endroit magnifique. Il a tout le temps eu vraiment un goût extraordinaire. Et je me souviens, quand j'étais très petite, que j'allais à Saint-Hilario me promener avec mes parents, que j'avais déjà découvert pour la première fois les panneaux solaires et quelqu'un m'avait dit, c'est la maison de Beppe Grillo. Et pour te dire que vraiment, ça fait longtemps, parce que moi, je suis jeune, mais pas vraiment une gamine, et ça fait longtemps que Beppe a commencé à penser différemment. Quindi, cari amici, per dirvi che questo, diciamo così, gemellaggio architettura comico è andato bene, anche se eravamo un po' in Italia, un po' in Belgio, un po' in francese, un po' in italiano. On va remercier beaucoup Luc Schuiten, un nome un po' complicato, c'è un nome un po' complicato per moi. J'arrive pas bien à ce voilà, Schuiten.
C'est très compliqué.
Voilà.
Moi-même, j'ai toujours des très grandes difficultés parce que en Belgique, on m'appelle Schuiten.
Schuiten.
En France, on dit Schuiten.
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 Alors, c'est très compliqué parce que quand je passe la frontière, je change de nom. et je me trompe souvent, je m'emmêle les pinceaux, je ne dis pas le bon nom ou le bon endroit. Alors, on ne sait plus très bien qui je suis.
D'accord.
Moi-même, j'ai souvent des doutes là.
Vous êtes un génie, je pense, un quelqu'un, un rêveur. Quelqu'un qui a eu un rêve et il suit son rêve. È un sognatore, qualcuno che segue il suo sogno e queste sono le persone di cui abbiamo bisogno. Allora, sentite, mancano praticamente un minuto. Io ringrazio Davide per questo suo intervento perché è sempre prezioso. Davide è una persona dalle mille attività. Per dirvi che, per esempio, Morta al Pilone, la Fiera del Libro, Turek Taxi, ma la OFF, il suo sito, la Casa della Poesia e questo bellissimo progetto che ha di ricostruire un teatro. E questo è il progetto credo più importante, anche se quello e forse
se trovo i soldi lo affido al Signore.
Lo affidi al Signore e io ti faccio la gestione invece. D'accordo, cari amici, vi salutiamo, ci vediamo, speriamo venerdì prossimo, vedremo se riusciremo ad andare in onda con certi sistemi. Un abbraccio, grazie per la costanza nell'ascoltare la nostra emissione 101.9 FM della Sonora Radio Alma. Ciao, a presto. Baci.